France Inter. Le masque et la plume. Rendez-vous au cinéma, c'est la devise du masque de ce jour, puisque nous allons parler de films depuis un théâtre, comme d'habitude c'est celui de l'Alliance française, avec son public nombreux et fidèle. Au passage, souvenir de mon tout premier masque, où avant de commencer, une dame s'est approchée de la scène pour pointer un siège du doigt et me dire « là ». C'est ma place. Eux aussi sont dans la place et sur scène, malgré les vacances scolaires d'une partie de la France. J'ai donc le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles, Ariane Allard, du magazine Positif et de Cosette.fr, Pierre Murat, parce que Pierre Murat, et Christophe Bourseiller, de France Inter. Une femme à barbe, un tire-bouchon dans une carotide, des fantômes et des cerfs. Ce sont quelques éléments du scénario de l'heure qui vient. Plus précisément, nous parlerons des films Rosalie, Drive Away Dolls, Madame Hoffman, Le mal n'existe pas et SOS Fantôme. Bienvenue pour une heure de cinéma à la radio. Petite question, écrit Anne-Sophie Benoît. La durée du masque n'aurait-elle pas été raccourcie? Parce qu'avant, je courais 8 km. Avec un masque complet. Et désormais, je n'en fais plus que 6,5. Or, je ne cours pas plus vite. Depuis les îles de Wallis et Futuna, Stéphane Pelletier se demande aussi pourquoi l'émission semble avoir été amputée d'une dizaine de minutes. Le but est-il de laisser de la place pour la publicité, pollution économique ultime des radios culturelles, écrit cet auditeur. Parce que depuis ma petite île du Pacifique, où il n'y a ni théâtre ni cinéma, c'est un plaisir d'entendre vos joutes oratoires. Voici ma réponse. La durée de l'émission du soir était plus longue que celle du masque diffusé le matin en raison d'un journal d'information plus copieux à cette heure-là. Et il a été décidé que tous les masques fassent la même durée, quelle que soit l'heure d'écoute. « Mesdames, les cœurs de pierre », nous écrit Laurent Roux depuis la Suisse. J'ai été très attristée par les critiques adressées à Hors Saison de Stéphane Brisé. Heureusement, Xavier Le Herpeur était là. Comment ne pas être ému par cette femme qui, dans sa jeunesse, fut larguée comme une vieille chaussette par un amant beau parleur? Quand leur liaison reprend, elle sait tout de suite que ça ne peut pas marcher. Cette ténacité irrépressible, malgré l'échec programmé, c'est la beauté. La plupart des mails de la semaine, d'ailleurs, prennent la défense de Hors Saison. Bravo Stéphane Brisé, écrit Isabelle en utilisant des caractères majuscules. Foncez voir ce film, renchérit Jean-Marc Esric de Mélan. Ok, ok, super, on a vu ça 1000 fois, commence Arnaud Sanquer. Pas sûr que, comme moi, tout le monde verse une larme devant des dialogues qui s'éternisent, une vieille femme et une cérémonie de mariage qui déboule comme un cheveu sur la soupe au milieu des violons. Mais j'ai été touchée par ces scènes qui s'étirent et par la musique de Vincent Delerme. La deuxième œuvre qui réunit vos suffrages s'intitule « Une famille », premier film documentaire réalisé par Christine Angot. Loïc Maire de Pordic le qualifie d'exceptionnel à l'image du courage de sa réalisatrice. Léa de Besançon se présente en disant « J'ai 24 ans et sur les réseaux, j'ai d'abord vu l'extrait de l'émission de Thierry Ardisson qui figure dans le film de Christine Angot. J'ai voulu voir le film en entier pour comprendre, et je veux insister sur cette archive télé où Christine Angot se fait humilier et où Ardisson parle de l'inceste en rigolant. Angot quitte le plateau en disant « ça ne m'amuse pas ». Ardisson lui répond « mais on s'amusait bien, nous, quand même ». Qui a dit que c'était mieux avant ? Arnaud Sanquer, auditeur déjà cité, ajoute « à l'époque, j'ai vu cette émission et je devais être du côté des rieurs. Ce film m'a fait comprendre bien des choses sur les blessures de cette femme. Je l'ai souvent trouvé difficile à lire et à entendre. Pas sûr que ce soit de sa faute. » L'autre thème de vos mails, c'est votre étonnement face à l'absence de Dune deuxième partie à cette tribune. Il s'avère que le film de Denis Villeneuve est sorti la semaine où nous avons remis les prix du masque à Wim Wenders et Justine Triet. La date de cette émission spéciale fut d'ailleurs fixée pour nous assurer de la présence des deux cinéastes. Et avec l'enchaînement des sorties, nous ne sommes pas revenus sur Dune. Je n'aurai que deux mots, mea culpa. Enfin, pour clore un mini-feuilleton, je voulais juste vous dire que nous avions retrouvé Marielle Yalobar, auditrice qui avait fait part de son amour pour Véronique Sanson et à qui l'équipe de la chanteuse voulait offrir une place de concert après avoir écouté l'émission. C'est bien quand même la radio. Pendant 40 ans, ils furent inséparables. Ethan et Joel Cohen, dits les frères Cohen, qui ont redessiné les contours du cinéma américain pour nous offrir parmi nos meilleurs souvenirs. Et voilà qu'après Joel, Ethan se lance seul dans la réalisation avec Drive Away Dolls. Seul, pas tout à fait, parce qu'Ethan Cohen en a écrit le scénario avec son épouse, Tricia Cook. Et voilà l'histoire. Jamie et Marianne sont lesbiennes, l'une multiplie les coups d'un soir, quand l'autre est, disons, sur la réserve. Elles décident de prendre la route pour rejoindre la Floride et repartir à zéro. Sauf qu'à leur insu, elles transportent des bagages convoités par des gangsters. Le script de ce road movie lesbien qui boxe dans la catégorie B ou Z compte entre autres une tête coupée, un godemichet mural et un roman d'Henry James. Margaret Qualley joue Jamie, Géraldine Viswanathan et Marianne. Et puis Pierre, c'est à toi.
C'est à moi. Bon, et c'est une catastrophe. Mais c'est, je ne comprends pas même comment ça puisse sortir. Parce que, non mais moi j'ai une grande admiration pour les Cohen. Bon, c'était Joël qui signait, mais les deux écrivaient, etc. Et là, on retrouve à peu près l'humour, enfin, tout ce qu'on aime chez les Cohen. Mais alors, rien ne marche. C'est catastrophique, quoi. Il n'y a pas de rythme. C'est lourd. C'est vulgaire. C'est bête. Il y a l'arrivée à la fin d'une guest star. Mais, alors, je pense que le frère Cohen en question est sous l'influence de ses scénaristes. Parce que, au moins, quand ils étaient tous les deux, Ethan et Joël, ils se répondaient l'un à l'autre. Enfin, il y avait une espèce d'humour. Et Dieu sait qu'on riait avec eux. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est une cata. J'ai jamais vu. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, pour moi, de ma part, un navet pareil. C'est une épouvante, vraiment.
Christophe.
J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé. Oh, je me suis dit, enfin on se marre, enfin un film drôle,
tu
bête,
t'es marré ?
Déjanté. Oui, j'ai trouvé ça très amusant. C'était une contrefaçon de série Z lesbienne. Il fallait l'inventer ce truc-là. Je veux dire, c'est quand même un truc fou, complètement rock'n'roll, un peu années 90. Eh oui, on est dans l'esprit quand même Big Lebowski, hein, puisqu'on est chez Cohen. On est quand même dans l'esprit Big Lebowski. Et puis Tarantino. Et puis alors Russ Meyer. Ben oui, c'est Russ Meyer en version lesbienne, quoi. Donc c'est vraiment marrant, il y a des motos, ça déconne, il y a des gens un peu cinglés. Alors les lesbiennes sont très très drôles avec leur collection de godemichets, elles sont absolument incroyables. Ah, moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs il proposait un titre, il dit au début ça s'appelle Drive Away Dolls, c'est-à-dire les poupées en goguette, mais à la fin il propose un nouveau titre, c'est Les Gouines en goguette. Et j'ai trouvé que c'était formidable comme film, personnellement. Enfin, je me suis bien amusé.
Ariane ?
Mais en fait, à la fin, c'était le début, c'est-à-dire que le vrai titre au départ, c'était Drive Away Dolls, et en fait ils ont eu un peu les chocottes, ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout de ça, et donc ils ont un peu lissé tout ça sous forme de Drive Away Dolls. Bon, voilà. Alors moi je ne serais pas aussi sévère que toi, je pense que 2-1 ça ne fait pas forcément 0, mais je me rends compte quand même, ce qui est assez drôle d'ailleurs, enfin curieux, c'est que quand les frères Cohen se séparent et font chacun un film, il y en a un qui fait une tragédie et l'autre qui fait une pochade qui n'est pas, moi, je trouve pas très drôle. Et pourquoi je la trouve pas très drôle? Parce qu'au départ, j'ai envie, quoi. Il y a un truc, il y a beaucoup de péripéties. Il y a cet argument, donc, du tandem de ces deux copines lesbiennes. C'est vrai qu'on n'a jamais vu, enfin, moi, j'en ai jamais vu, en tout cas, de road movie grand public qui est ce genre d'héroïne.
Avec le gouverneur de Floride qui est formidable.
Oui, voilà. Et contrairement à toi, je trouve l'apparition de Matt Damon, je la trouve assez drôle. C'est une espèce de figure en luxe. Je trouve ça assez marrant.
Mais pour. Miley Cyrus aussi, qui est super, qui apparaît deux fois.
Ouais, voilà. Mais en fait, moi, je trouve juste que quand on enlève tout ça, ce petit côté film indé, décalé, un peu marrant, un peu bidouillé, un peu foutraque, on se rend compte que le scénario, il est hyper convenu. C'est-à-dire que, par exemple, le tandem, les deux pépettes, il y en a une, bah, c'est celle qui est dessalée, qui est hyper sexualisée et sexuelle, et forcément, c'est elle qui est aventurière. Et puis, sa copine qui est un peu réservée, un petit peu plus craintive, bah, évidemment, elle est coincée. Et ce genre de tandem antagoniste, c'est la base du buddy movie. Ouais. Sauf que là, bon, effectivement, c'est deux filles et deux deux filles qui sont lesbiennes. Franchement, je trouve quand même qu'ils se sont pas foulés. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que Ethan a l'intention de continuer et il va faire un nouveau film avec sa femme. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que son frère, son grand frère, le rattrape et lui dit allez, viens, on recommence à travailler ensemble.
Avant, à deux, mais lui, il fait une pochade, là, c'est tout, il faut le prendre.
C'est une pochade, mais un peu ratée quand même.
Série Z.
Voilà, Jean-Marc.
Je vais venir au secours de Christophe.
Ah, merci.
Moi, le film me passionne assez. Et j'ai l'impression que le film est le produit d'une sorte de double injonction. D'un côté, l'envie un peu crâneuse d'assumer absolument de faire un film de vieux, c'est-à-dire un cinéma assez agressif d'un point de vue graphique, avec des angles biscornus, des cadrages penchés, vraiment un formalisme très années 80. C'est un peu une sorte de boomer pride, quoi. Il assume son côté, j'ai plus de 60 ans et je fais un film comme à mes débuts. Et en même temps, il a l'envie de faire un film de jeune, un film qui serait déconstruit, LGBT friendly, complètement du côté des filles, et ça produit une sorte de schisme, de tension assez forte et assez passionnante, qu'en plus il rejoue à l'intérieur du récit, c'est-à-dire que c'est l'histoire de vieux gangsters à la Cohen qui poursuivent deux jeunes filles qui n'arrivent jamais à les rattraper. Et c'est précisément ce qui se passe dans le film qui crée quelque chose de très chahuté dans le film, d'assez réjouissant, qui moi m'a plutôt ravi.
La suite se passe à Marseille, plus précisément à l'hôpital Nord, donc changement radical de décor. Nous allons parler de Madame Hoffman, nouveau film documentaire de Sébastien Lifshitz. Madame Hoffman se prénomme Sylvie, elle est infirmière depuis 40 ans dans un service d'oncologie. Et Sébastien Lifshitz la suit dans son quotidien professionnel et personnel. C'est donc un portrait de femme, au pluriel, Sylvie Hoffman, qui est au centre, je l'ai dit, mais aussi les infirmières et aides-soignantes de son service, ou encore sa mère Micheline, qui mériterait un film à elle toute seule. Sébastien Lifshitz les aime. C'est aussi un état des lieux de l'hôpital public avec la pandémie de Covid. Et c'est enfin un film sur le basculement d'une vie, ce moment où l'on passe de journées qui débordent de boulot à une retraite bien méritée. Jean-Marc.
J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un film très émouvant. Je pense que Lifshitz n'est jamais assez allé aussi loin dans des effets de fiction produits par son cinéma documentaire, avec une manière de mêler des arcs narratifs où se mélange la vie privée, la vie professionnelle, vraiment comme dans une fiction, et la constitution d'un personnage en partant d'une personne réelle, avec des effets d'empathie, d'identification très très forts. Et ce romanesque documentaire, c'est quelque chose d'assez original, et en plus, il réussit à la fois à pratiquer un cinéma extrêmement immersif, où on est vraiment au cœur de ce service d'oncologie, on est sans cesse débordé par les dérèglements du réel, les accidents, et en même temps sa forme, elle n'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer, un peu automatiquement, caméra à l'épaule, en harmonie avec le chaos. Au contraire, sa forme, elle est extrêmement posée, cadrée, il y a une sorte de sérénité de la mise en scène, d'apaisement par le regard, comme si on pouvait voir très tranquillement le désordre du monde, et ça c'est vraiment très très beau. Et il y a une dernière chose que j'adore dans le cinéma de Lifshitz, c'est qu'il ne s'intéresse qu'au début de l'existence, comme dans Petite Fille, comme dans Adolescente, ou à la fin, avec des personnages plutôt dans le dernier mouvement de leur vie, comme si le corps même de la vie l'intéressait moins que le moment où on va s'y projeter et la construire, ou au contraire, le moment où tout est déjà joué, on se retourne pour la penser. Et de ça, il fait quelque chose d'extrêmement profond et de vraiment émouvant.
Christophe.
Écoutez, moi, là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est que effectivement, j'ai cru au début que c'était un film de fiction, parce que c'était tellement posé, champ contre champ, tellement cadré, placé, et puis même cette femme, Madame Hoffman, on savait pas si c'était vraiment une infirmière ou quelqu'un qui incarnait une infirmière. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, j'ai eu l'impression d'être assis dans un compartiment de train, et il y a une dame qui arrive à côté de moi, qui dit bonjour, je m'appelle Madame Hoffman, et qui se met à me parler, et qui me dit, vous savez, je suis infirmière, c'est pas facile, parce qu'on bosse beaucoup, hein, vraiment, du matin au soir, et puis alors, on est sur la brèche, j'ai vécu des trucs pas faciles, mais enfin, je suis contente, je vais bientôt faire me prendre ma retraite, j'ai pris ma retraite, c'est calme, la retraite, on est bien, hein, on peut aller se mettre au bord de la mer, je bronze, enfin, c'est quand même agréable. Et quelque part, j'avais envie qu'elle se taise.
Vous voyez ? Quelle misanthropie.
Et à la fin, je suis désolé, hein, et à la fin du film, j'en pouvais plus, quoi. Et j'étais là, alors les bons sentiments, oui, c'est vrai, elle nous aide, les soignants, bravo, bon. Mais en même temps, j'avoue que c'est pas non plus une vie palpitante, quoi. C'est la vie de quelqu'un qui travaille et puis après elle prend sa retraite, quoi. C'est déjà pas mal, hein. On est tous des héros. Mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, j'ai eu un doute.
Ariane. On n'a pas vu le même film, hein, Christophe, ça c'est clair. Moi, en l'occurrence, j'ai trouvé, et je rejoins ton idée de romanesque, en fait, Lifshitz a tourné pendant un an, et Ce qu'il installe comme dramaturgie, c'est-à-dire le fait qu'elle va prendre sa retraite, c'est arrivé pendant le tournage. C'est-à-dire que c'était absolument pas prévu. Je me permets de le dire parce que j'ai interviewé Sylvie Hoffmann et donc elle m'a raconté comment ça s'est passé. Et du coup, je trouve que ça crée une tension et quelque chose de très poignant parce que cette femme a complètement dédié sa vie aux autres. C'est une femme qui est systématiquement dans le don. Et pourquoi il y a un côté professionnel et un côté intime? C'est parce que quand elle sort de l'hôpital où elle passe des heures et des heures, elle s'occupe de sa mère qui est malade mais qui est aussi une personnalité assez extraordinaire. Elle s'occupe de sa fille, elle s'occupe de son mari, qui lui-même a dû s'arrêter parce qu'il était malade. Et ce que je trouve très touchant par-delà cette dramaturgie qui est centrée autour de cette dernière fois, c'est comme une, entre guillemets, une cérémonie des adieux, c'est qu'on Lifshitz, et ça c'est pour moi c'est vraiment le signal d'un très grand portraitiste, en dehors du fait qu'il a choisi une personnalité que je trouve moi exceptionnelle, excuse-moi Christophe, Lifshitz, il a compris quelque chose et il nous le donne à voir sans que ça soit intrusif, c'est-à-dire qu'il saisit une femme qui est rattrapée par la maladie dans un contexte qui est lui-même malade. Mmh. Et je trouve que c'est très beau parce que ça n'est pas surligné, il n'y a pas de discours et c'est par son récit, par ses moments, par ses séquences, qu'elle soit seule, qu'elle soit aussi avec les autres soignantes, où il y a des moments extrêmement drôles, alors que je rappelle quand même qu'elle travaille dans un service d'oncologie et de soins palliatifs. Et c'est une femme qui dégage une énergie, un sourire. Je ne dirais pas quels sont les mots qui l'atteignent, mais elle a vraiment des gros soucis de santé. Et par ailleurs, tu parlais de la vieillesse, elle n'a que 58 ans quand même, Jean-Marc.
Le dernier moment de la vie.
Voilà. Ah bah d'accord. Pierre.
Eh ben c'est très bien. Non, c'est bien. Non, c'est vraiment, vraiment très bien. C'est très bien. C'est,
mais
c'est impeccable. C'est impeccable. C'est impeccable. Non, ce qui est très bien aussi, c'est que Sébastien Lifshitz, qui a fait de la fiction, a abandonné la fiction parce qu'il n'était pas très doué. Et justement, il a fait du documentaire et de plus en plus romanesque. Et ça, bravo, parce qu'il a réussi à le faire. Bon. Je ne peux pas dire quand même tout à fait, parce que bien sûr que cette femme est admirable. Je pense quand même, pour avertir ceux qui ont la gentillesse de nous écouter, c'est que on voit ça quand même très très souvent si on regarde un tout petit peu la télé. Des reportages sur des infirmières admirables, il y en a.
Toi qui es très sensible à la mise en scène, Pierre, précisément, c'est pas du tout une mise en scène de reportage.
Oui, je suis d'accord. C'est très bien, Jean-Marc. C'est très très bien.
Mais quoi,
Je pense quand même que chez Sébastien Lifshitz, les invisibles, c'était quand même plus fort, mais je crois que c'est une question de sujet, simplement. Mais c'est très bien.
Alors, on enchaîne. Nadia Tereskiewicz, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, trois des comédiens à l'affiche de Rosalie, deuxième film de Stéphanie Di Giusto. Nous sommes en 1870, dans la campagne française. Rosalie, Nadia Tereskiewicz, est mariée à Abel, Benoît Magimel, qui est tenancier de café. Le mariage est arrangé puisque la dot de la jeune femme permet à Abel d'éponger une partie de ses dettes. Arrive la nuit de noces. Abel découvre alors le secret de Rosalie. Elle se rase le visage et des poils recouvrent son torse, ses jambes, son dos. C'est ce qu'on appelait une femme à barbe. Comment Rosalie va-t-elle vivre avec cette particularité face à son mari et le village entier? Le scénario s'inspire de la vie réelle de Clémentine Delay. Nadia Tereskiewicz porte donc la barbe et le désir des hommes chancelle. Ariane.
Si on veut être un peu bien pensant ou mièvre, on va dire que c'est un beau film sur la différence et sur l'acceptation de soi.
Mais tu n'es pas bien pensant.
Mais non, parce que je pense que c'est mieux que ça. D'abord, c'est un film qui propose deux récits en un, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Le premier récit, c'est un récit d'émancipation, de liberté. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va devenir femme, non seulement en acceptant sa différence, mais en faisant accepter sa différence aux autres et en demandant à être aimée pour ce qu'elle est, ce que je trouve assez courageux. Et le deuxième récit, et je pense que c'est celui-là qui m'a le plus happé, qui a fait vibrer mon petit cœur, c'est que c'est une immense histoire d'amour. Et c'est elle qui est une femme qui vibre de sensualité et de vie et qui va ranimer cet homme en lui faisant accepter. Et lui, au départ, il est partagé entre le dégoût, la compassion et quand même une forme de désir aussi, je trouve. Et voilà. Et vous avez parlé de Nadia Tereskevitch, mais l'homme, Abel, le mari, c'est Benoît Magimel, et moi je le trouve absolument exceptionnel dans ce rôle.
Mais pour revenir aussi sur précisément le désir qu'elle suscite, moi je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant.
Oui,
c'est-à-dire
qu'elle
crée du trouble avec cet attribut très masculin qui est la barbe chez les hommes.
Mais en fait,
il y a un des personnages qui lui dit « Vous êtes la femme idéale ».
Mais parce qu'en fait, c'est un film qui chahute, alors c'est une expression qui est assez commune aujourd'hui, qui chahute les codes et qui chahute les genres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être femme, qu'est-ce que c'est que le féminin ? Est-ce qu'on peut être femme en ayant de la barbe ? C'est toute la question qui est posée.
Qu'est-ce que t'en penses, Christophe ?
Oh bah, c'est grotesque. c'est une sorte de plaidoyer. Alors, c'est aucun humour, hein. Zéro humour, le film, on est sérieux. Plaidoyer moral, inclusif, citoyen, pour le droit des femmes à barbe, à porter la barbe. Donc, moi, j'ai rien contre. Hein. Avec, en plus, une espèce de cavalcade de clichés sans cesse. Alors, notamment, un cliché, évidemment, qu'est-ce que vous voulez, c'est peut-être le cliché de l'époque, mais les femmes sont toutes intelligentes, tolérante, subtile, et les hommes sont soit des pervers qui veulent lui toucher la barbe, soit des gros rustos débilos. Donc moi, j'ai trouvé ce film manichéen et navrant.
Pierre.
Eh bien, alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, oui, c'est un peu loupé, mais quand même. D'abord, c'est un film que moi, je n'aurais pas intitulé Rosalie, mais Abel. Parce que pour moi, c'est le personnage le plus intéressant dans la mesure où, lorsqu'il découvre
le torse poilu de sa jeune épouse,
il n'est pas dégoûté, en quelque sorte. Il est surpris. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant dans l'histoire, c'est les étapes, comment la réalisatrice filme les étapes qui vont faire que cet homme va accepter, aimer et coucher avec un être poilu.
Et désirer.
C'est ça, le film. Et il y a une partie que j'aime bien, c'est lorsque l'héroïne s'accepte dans le café, et là, tous les hommes, en effet, qui la désirent, elle devient presque l'héroïne du roman d'Octave Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre. C'est-à-dire qu'elle se fait désirer par absolument tout le monde, et ça, c'est très bien. Alors, malheureusement, je suis d'accord, il y a, dans la dernière partie, une imagerie mélodramatique qui fout le film par terre.
Je crains qu'on en ait trop dit, mais la parole est à toi, Jean-Marc.
Oui, moi je suis aussi un peu mitigé, mais je trouve le film quand même plutôt intéressant et vraiment assez curieux. On est un peu à mi-chemin entre une certaine veine du cinéma de Bertrand Tavernier, un cinéma historique, social, très didactique, qui n'exclut pas une certaine lourdeur, mais aussi certains films de Jane Campion. Ce que je trouve un peu commun entre ce film et la mise en scène de Jane Campion, c'est à la fois le goût pour un formalisme un peu rigide et en même temps avoir accès à une forme de sensualité à l'intérieur même de cette rigidité. Et je trouve que le travail du maquillage, notamment, est vraiment impressionnant. Je trouve que la pilosité du personnage de Rosalie, et notamment sa pilosité torsale, et c'est vraiment très beau et très troublant. Il y a quelque chose de profondément érotique, érotisé dans la monstration de ça. Je trouve que la construction du récit est un peu trop sur des ficelles. Mais le film est quand même troublant et intéressant.
Le film suivant est auréolé d'un Lion d'argent Grand Prix du jury par la dernière Mostra de Venise. Il s'intitule « Le mal n'existe pas ». Il est signé du japonais Ryuzuke Hamaguchi, 3 ans après son film « Drive My Car », qui avait d'ailleurs reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Takumi et sa fille Anna vivent dans une maison au cœur de la forêt, à 200 km de Tokyo. Takumi apprend le nom des arbres à sa fille, il s'approvisionne en eau avec le ruisseau du coin, comme tous les villageois, jusqu'au jour où 2 représentants d'une agence de com viennent présenter un projet de glamping. Alors le glamping, c'est la contraction du glamour et du camping. Un projet susceptible de polluer la nappe phréatique et de nuire au quotidien des locaux. C'est loin d'être la seule direction de ce scénario, directement inspirée d'une musique composée par Eko Ishibashi. C'est vraiment à partir de cette musique que Hamaguchi a imaginé son film. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous la mettre dans l'oreille quelques secondes. Voilà, ça se déploie en nappe. Jean-Marc, c'est toi qui vas parler sur la musique d'Eko Ishibashi.
La musique dans le film est extraordinaire et l'usage qu'il en fait est extraordinaire. On a parfois la musique au cinéma elle est illustrative. Là on a vraiment l'impression qu'elle laboure l'image, qu'elle la creuse, qu'elle la modifie, que l'image devient plastique en fait grâce à la musique. Donc c'est sidérant. Je pense que tu disais qu'il y a eu le Lion d'argent, je pense qu'il méritait le Lion d'or. On est vraiment à un niveau de cinéma assez stratosphérique. Je pense qu'Amaguchi est un très grand cinéaste, que en plus son œuvre est extrêmement évolutive. Il réinvente les paramètres de son cinéma à chaque film. C'est-à-dire que c'est vraiment très très différent du précédent film qu'on avait vu de lui, qui était l'hyper-romérien, Conte du hasard et autres fantaisies. Là, on pense un peu à Drive My Car, mais c'est quand même par endroits très très différents. On est dans le registre de la fable, d'une fable écologique qui au départ décrit une sorte de phalanstère où la société des hommes a un rapport assez réconcilié à la nature, même s'il y a une sorte de grondement, de menace qui tourne. Puis tout à coup, on bascule dans un film un peu à thèse, lorsque ces représentants du glamping, comme tu disais, arrivent, et il y a une scène de 20 minutes de discussion, comme ça, d'affrontement rhétorique entre les villageois qui veulent préserver l'eau de leur village et les représentants du glamping qui sont totalement insoucieux de leur intérêt. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est qu'on y rentre avec les villageois, mais on en ressort avec les deux représentants de la société de glamping et on va rester 20 minutes avec eux. Donc il y a une espèce de complexité dialectique où il épouse le point de vue de tous les personnages. Il est vraiment du côté de la complexité et ça c'est très fort. Et puis une dernière chose, c'est que moi j'ai vraiment été extrêmement impressionné par l'image du film. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une expressivité de la caméra numérique chez Amaguchi, c'est vraiment un plan d'Amaguchi voit beaucoup plus ce qu'un œil humain peut voir dans la vie. Il y a un rendu de la texture de la nature, de l'eau, des fougères. Enfin, on a l'impression de voir la nature et le monde comme pour la première fois. Et ça, c'est vraiment une des expériences de cinéma les plus bouleversantes qui soient.
Pierre.
Je suis très déçu. Je suis très déçu. Oh. D'autant que je suis comme Jean-Marc. Je pense que ce réalisateur est immense. C'est un très, très grand réalisateur. Mais quand moi, j'ai aimé Drive My Car, que j'ai revu plusieurs fois, qui est un chef-d'œuvre, faire un film aussi prévisible, une fable
non.
écolo. Mais non, mais attends.
Mais j'ai
le droit. Non, mais attends. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je trouve ça paresseux. Je trouve ça sans grand intérêt parce que à ce moment-là, si on veut véritablement faire un film écolo avec le bon sauvage qui fait l'eau de la nature, qui nous apprend à nous citoyens, citadins, de retourner, de vivre. Voilà. À ce moment-là, il y a un film qui vient de ressortir il y a 3 semaines, qui est Dersu Uzala de Kurosawa. Je t'assure que c'est une autre forme, une autre puissance. Et là, il y a une scène, une seule scène qui m'a absolument et qui est absolument insignifiante au départ. Mais c'est dans une voiture, il y a les deux personnages secondaires qui discutent. Et là, ce qu'ils se disent, c'est-à-dire on voit entre eux brusquement les faiblesses, tout ce qu'ils ont raté, tout ce qu'ils auraient pu réussir, tous les doutes qui les assaillent. Et là, je me suis dit, ça dure 3-4 minutes, là, oui, on est chez ce cinéaste Amaguchi, qui est absolument génial. Le reste, alors en plus, c'est un scénario, et je finis là, c'est un scénario qui est... je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui était sous l'influence de sa scénariste. Là, il est véritablement sous l'influence de sa compositrice. Mais on fait pas un film en fonction d'une musique. Résultat, le scénario va un peu de tous les côtés. Alors, le mal n'existe pas. Puis si, quand même, il existe. Puis au dernier moment, il existe. Ah ben, il pourrait exister, il n'existe pas. Non. Qu'il refasse des variations sur Drive My Car, qui est un chef-d'œuvre que je vous conseille à tous d'aller découvrir ou revoir. Et puis voilà.
Et puis voilà, Christophe.
Là où je rejoins Pierre, c'est que j'avais adoré Drive My Car. C'était absolument génial. Là, je suis un petit peu aussi resté sur ma faim dans la mesure où, bon, c'est une fable écologique qui glorifie la nature,
mais
c'est surtout d'une austérité et d'un jansénisme indépassable. Je veux dire que pour un Japonais, c'est plus curieux de parler de jansénisme, mais on est dans une austérité totale. Il y a une scène quand même où il va dans la forêt, le personnage principal, il coupe du wasabi. Ce serait beau, c'est magnifique. Hein, Et puis après, il coupe du bois. Donc une bûche, deux bûches, trois bûches, quatre bûches, 20 bûches. Moi, je 25 bûches. Et puis mystérieusement, il arrête. Donc là, je fais ouf, quoi. Il rentre le bois, vous voyez. Donc là, vous voyez, il y a quand même cette lourdeur, cette lenteur qui fait que. Et puis alors, j'ai une dernière question. Et là, je fais appel aux auditeurs. Voilà, je n'ai rien compris à la fin.
Non, mais moi non.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer la fin, je serais ravi parce que c'est pour ça que le scénario n'est pas si évident que ça. Ah, c'est-à-dire que la fin m'a laissé sur ma fin.
Ariane.
Oui, je suis d'accord sur la fin. Mais je pense que, enfin, moi, je suis sortie de ce film, j'étais très perplexe et totalement éblouie. Et c'est un contraste qui arrive pas très souvent. Et je pense que c'est à la mesure du film. C'est-à-dire que c'est un film, en fait, qui cache son jeu, je trouve. C'est-à-dire qu'il est apparemment lumineux et il sent le mal. Hein. Il est apparemment harmonieux et il est jalonné de menaces. Par exemple, on entend des coups de fusil, ouais. Mais c'est jamais identifié, on sait pas ce que c'est.
Mais c'est totalement imprévisible.
C'est très imprévisible. Il y a aussi des disparitions. Par exemple, il y a une mère qui n'existe que sur une photo, on n'en parle jamais. Il y a une petite fille qui s'évapore. Et c'est constellé comme ça de petites choses, enfin de petites choses et de choses plus profondes qui sont inquiétantes. Et je pense qu'en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de l'image, puisque l'image, elle est effectivement sublime. Ouais. Mais derrière l'image, évidemment, il y a beaucoup de troubles. Et les plans qui durent si longtemps, qui ont tellement ennuyé Christophe, je pense qu'ils sont faits effectivement parce que Hamaguchi nous dit, veut nous demander d'ouvrir les yeux, de regarder. Et il faut du temps pour regarder une image. Il faut pas juste, enfin, c'est pas un montage cut comme ça. Et moi, j'avoue que j'ai été quand même, enfin, curieusement, quand je regardais le film, j'avais des impressions mélangées. Et plus le film travaille en moi, plus il décante, et plus c'est un film, j'ai l'impression, il y a une image très belle, c'est celle de l'ouverture. La caméra lève, en fait, se lève vers le ciel.
Et on voit des extrêmement lumineuses.
Et on voit, sublime, en fait, sublime. Oui, et en plus, c'est un plan qui dure très longtemps. Et on voit la cime des arbres. Et ces arbres qui s'enchevêtrent, forment une espèce de grille ou de grillage. Et je trouve que rien que cette image, elle dit en une seule image tout le film et tout ce que le film veut nous raconter. C'est-à-dire ce rapport de force entre la lumière et le sombre et l'opaque, et voilà, entre l'homme et la nature, et entre l'homme et l'homme.
Quelqu'un veut-il intervenir au sujet de Le mal n'existe pas ? Oui, bonjour monsieur.
Bonjour. Donc je suis sorti de ce film, j'étais pas sûr d'avoir été intéressé par le sujet. Donc je suis sorti un peu sceptique, et puis voilà. Comme dit Ariane, les jours passent, et ça c'est peut-être l'apanage des grands films, ils vous laissent une petite musique dans la tête qui fait que. Cela dit, maintenant que j'ai entendu la comparaison avec Derzo ou Zala, effectivement qui est un chef-d'œuvre, ou Lalanne qui parle de la nature jamais photographiée, il faut penser quand même à Terrence Malick. Voilà.
Ah oui, salut.
Quelqu'un d'autre ?
Monsieur là-bas.
Au milieu de la salle. Merci de me guider, Christophe.
C'est bien parce que je l'ai vu, c'est pour ça.
Il fait tout.
Oui, c'est vrai. Chef d'orchestre.
Non, je vais régler les micros.
Merci. Merci. Moi, je vais rejoindre Jean-Marc pour l'absolu. Enfin, j'ai adoré ce film absolument. Je suis pas d'accord. Ça fait pas tellement penser à du Malick dans la mesure où c'est pas un rapport panthéiste à la nature. C'est un rapport qui est beaucoup plus complexe. Je dois avouer qu'au début, j'ai eu un peu peur. Déjà, le titre est assez intimidant. Les 5 premières minutes, on sait pas trop où on est, mais il y a une inventivité et une liberté. Chaque plan, les plans ne sont pas la succession logique les uns des autres. Il y a une liberté absolue, ouais, dans le récit, dans la musique aussi. À des moments, il se permet de la couper. On sait absolument pas pourquoi.
D'un coup, parfois.
Et je dois avouer que moi, je trouvais presque le film trop court. J'exagère peut-être un peu, mais
il coupe pas assez de bûches.
les 10 dernières. Mais ça, c'est génial d'ailleurs, cette histoire de bûches, parce que ça introduit presque des éléments d'horreur, de thriller. On se dit à tout moment, ça peut basculer, mais on sait pas quand. Et les 10 dernières minutes sont absolument prenantes. Et d'ailleurs, je rajoute, je regardais ça juste avant l'émission, de savoir que c'est l'Antimos qui a eu l'ours d'or à la place de d'Amaguchi. Voilà, scandale.
Lion d'or.
Le lion d'or, oui. Quelqu'un d'autre pour intervenir sur Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi ? Non. Alors on termine avec Bouffetou et des mini-chamallows. Bref. Le 5e film de la franchise SOS Fantôme est dans les salles. Le précédent, sorti il y a 3 ans, avait tenu ses promesses, selon moi. La saga est donc de retour à New York et il est évidemment question de supprimer un fantôme, d'abord enfermé dans une boule, enfin dans une sphère, et qui, une fois libéré, menace la ville de glaciation. Il y a une nouvelle génération d'acteurs, mais Bill Murray et Dan Aykroyd, qui étaient dans le film d'origine, sont aussi de la partie. En 2024, qu'est devenue cette comédie d'aventure potache, caustique, un peu horrifique, Kubrick, né il y a 40 ans pile. Je précise que le film figurait parmi les 5 premières places au box-office en Amérique du Nord et en Europe lors de son premier week-end d'exploitation. Et le tout est réalisé par Gil Kenan. Voici votre verdict à vous, chère plume du masque, Ariane.
Alors là, pour le coup, c'est vraiment très mauvais, quoi. C'est, alors, moi, je fais partie de la génération qui a vu celui de 1984. Le tube nous était seriné à longueur de radio. Il était plutôt pas mal, d'ailleurs. Et moi, j'étais... Franchement, quand je suis allée à la projection, j'avais envie que ce soit bien, parce que j'avais envie de retrouver non seulement le côté Barjo, mais le côté désinvolte de ce film, qui m'avait vraiment marqué. C'est peut-être parce que j'avais aussi l'âge d'être désinvolte, je ne sais pas. Et en fait, on se retrouve face à un gros machin qui... Quand on dépièce tous les effets spéciaux, qu'on enlève tous les artifices et tous les personnages, parce qu'il y a énormément de personnages, on se rend compte que le scénario est squelettique. Et je dis ça pas parce qu'il y a une métaphore spectrale derrière, mais vraiment, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec le même scénario de base et les ornements ne servent à rien. C'est-à-dire, en l'occurrence, il y a l'entité surnaturelle, il y a la menace planétaire, et puis il y a une équipe de bras cassés, mais quand même très sympathique, qui va venir sauver le monde, quoi. Et c'est tout. Et on a beau rajouter des effets spéciaux en veux-tu, en voilà, une vague petite tension romantique pour faire à la mode entre deux jeunes filles, c'est-à-dire une jeune fille réelle et puis espèce de clone fantomatique. Mais le film est même pas courageux parce qu'il va même pas jusqu'au bout de cette idylle naissante entre les deux filles. Moi, je me suis quand même, mais vraiment profondément ennuyée. Heureusement qu'à la fin, au générique, on entend enfin la chanson.
Ghostbusters.
Christophe.
Moi, j'adorais aussi SOS Fantôme. J'y suis allé en me disant, chouette, je vais enfin voir un film où on se marre un peu, détendre un peu après tout ce que j'avais vu. Et c'est vrai que j'ai eu une certaine déception parce que malheureusement, c'est vrai qu'au début, en 1984, SOS Fantôme, c'était malin, intelligent, c'était de la comédie, mais il y avait quelque chose d'assez puissant dans cette espèce de groupe, de branque et tout. Et puis, c'est devenu un truc pour ados. C'est devenu une espèce de produit Disney Channel, quasiment, quoi. C'est devenu quelque chose de complètement orienté, faible, et je te rejoins, on dirait un peu Spider-Man sans Spider-Man, avec l'éternel méchant avec des cornes horribles qui fait je vais détruire la Terre et les autres en face qui font et les autres en face qui font attends, tiens, et c'est ça, boum boum, ça marche pas, ah ça marche, il est détruit, on est dans un truc très banal, et je dois dire c'est quand même assez mauvais signe dans un film comme celui-là, je crains d'avoir dormi.
Ah, c'est un aveu que nous recevons. Pierre.
Mais je crois qu'il y a, oui, non, c'est pas bon du tout. Mais c'est, je crois que ça vient du fait de la, ils ont pas été capables de faire une équipe de jeunes, enfin, la famille jeune, intéressante. Parce que le mec veut uniquement que sa belle-fille l'appelle papa. Bon, très bien. La mère est totalement insignifiante. Le fils est un crétin. Et la fille.
C'est un petit génie, la fille.
La fille est bien. Mais bon, on fait une idylle avec
une fantôme.
Alors, c'est la plus à la mode, évidemment. Il y a 30 ans, elle serait tombée amoureuse d'un fantôme. Là, elle tombe amoureuse d'une fantôme. Mais c'est pas ça qui fait... Et à côté de ça, il y a des vieux, c'est-à-dire Bill Murray, Dan Aykroyd, etc., qui essaient d'avoir un tout petit peu de présence là-dedans. Et c'est l'attelage, l'alliance entre les deux qui ne marche pas. Les jeunes sont emmerdants et on voudrait voir les vieux. Et les vieux, on peut pas leur donner la vedette. Donc évidemment, ça marche pas. Alors il y a une seule scène qui, moi, m'a fait sourire. C'est lorsque ils cherchent... Parce que le monstre s'exprime dans une langue que personne ne connaît. Et alors ils sont là en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette langue ? Qu'est-ce que c'est que cette langue ?» Alors c'est une langue morte, évidemment, depuis très longtemps. Alors c'est le latin, ils disent « Non, c'est pas du latin, c'est pas du sanskrit.
Oui.
Non, c'est pas du sanskrit. Du français. Ah non, c'est pas du français. » Alors voilà, c'est la seule chose qui m'a amusé, c'est que dans un blockbuster américain, on considère que le français
est une langue morte.
Une langue morte. Voilà, à part ça, ça n'a aucun intérêt.
Jean-Marc ?
Oui, je me disais en voyant le film qu'il souffrait vraiment d'un double problème de décongélation. D'un côté, il y a celui qu'affrontent les personnages qui doivent sauver New York d'une nouvelle ère glaciaire. Et de l'autre côté, il y a vraiment celui des auteurs qui cherchent à décongeler une franchise vraiment, vraiment défraîchie aujourd'hui, où tout renvoie aux années 80, où vraiment l'humour, c'est un humour des années 80, vraiment surgelé et qu'on n'arrive pas du tout à raviver. Et même idéologiquement, il y a toujours quelque chose d'un peu régagnant, je trouve, dans cette dans cette franchise, cette idée comme ça que tous les aliens sont des menaces et qu'une famille américaine militarisée va éradiquer tout ce qui est différent, il y a toujours quelque chose que j'ai trouvé un peu déplaisant et qui là n'est pas du tout repensé. Puis moi, au fond, je n'ai jamais aimé cette franchise parce que moi j'adore les fantômes. Je pense que le cinéma, c'est absolument l'art de convoquer les fantômes, et il n'y a pas de film moins hanté, de cinéma moins spectral que Ghostbusters. Les fantômes sont vraiment des espèces de bonbons Haribo multicolores, et c'est pour moi le contrat des fantômes. Donc voilà, j'aime pas du tout Ghostbusters.
Un mot, voire plusieurs, sur SOS Fantôme, la menace de glace dans le public. Oui, tout à fait sur la droite.
Christophe, par là.
Merci Pierre.
Merci Pierre.
Il a dit par là.
Bonjour.
Bonjour. Je trouve que dans ce film, il n'y a pas assez de rebondissements. Par exemple, quand ils sont dans la bibliothèque, on entend parler du laiton. Et donc, on peut savoir, juste par une petite réflexion, que le méchant sera attrapé par un mélange de laiton. Mais il y a quand même un bon mélange de générations. Par exemple, on voit les enfants qui à la fin combattent avec la première génération de Ghostbusters. Et donc je suis mitigée sur ce film.
Et juste pour savoir, vous avez quel âge ?
11 ans.
Merci et bienvenue.
Je suis assez d'accord avec lui.
Une autre intervention sur SOS Fantôme ? Non ? Eh bien, c'est donc l'heure de vos coups de cœur. Pierre, tu ajustes tes lunettes.
Oui.
Et approche du micro, c'est à toi. Ton coup de cœur.
Alors, c'est le film qui s'appelle Black Flies, de Jean-Stéphane Sauvert. Alors, c'est l'histoire de...
Avec Sean Penn ?
Oui, avec Sean Penn et Ty Sheridan. C'est l'histoire donc de deux ambulanciers à New York actuel. C'est un film, pour moi, je trouve assez... Alors, bon, il y a des mouvements à l'épaule qui sont assez détestables, mais il y a une fougue, un enthousiasme. Et c'est surtout, en gros, c'est 50 ans après Taxi Driver. Dans Taxi Driver, il y avait un taxi qui découvrait l'horreur de New York et de notre société. Et ben là, 50 ans après, c'est encore pire, et c'est l'enfer. On voit visiblement l'enfer. Et voilà, et c'est très, c'est terriblement inconvenant, et moi j'ai une grande faiblesse pour les films terriblement inconvenants.
Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. Donc Ariane.
Alors moi c'est un film beaucoup plus léger, tout en charme, en douceur, en malice. C'est un film qui s'appelle Sidonie au Japon, qui a été écrit, moi je dirais même co-écrit par Alice Girard et une cinéaste que j'aimais beaucoup, qui est décédée l'année dernière, qui s'appelait Sophie Filière, qui écrivait des comédies très joliment perchées. Et on retrouve ce ton-là. Donc l'histoire, c'est une romancière. Incarnée par Isabelle Huppert, qui n'écrit plus depuis un petit moment. Et à l'occasion de la réédition de son premier best-seller, elle se retrouve à contre-cœur au Japon, un pays, une culture qu'elle ne connaît pas du tout, et comble de cette perdition, de cet égarement, elle tombe nez à nez avec le fantôme, encore un fantôme, et moi aussi j'aime beaucoup les fantômes, avec le fantôme de son mari. Et en fait, cette rencontre va évidemment lui faire perdre tous ses repères, mais peut-être l'amener à reconstruire une nouvelle vie. C'est un film qui oscille entre la rêverie, la tristesse. C'est un Japon de carte postale, parce qu'on est un peu dans le fantasme aussi. Voilà. Et Isabelle Huppert est extraordinaire, vraiment. Je trouve qu'on
dans le registre du burlesque.
Mais voilà, c'est-à-dire c'est un burlesque, elle est à la fois brusque et burlesque, elle est magnifique.
Sidonie au Japon, donc, d'Élise Girard. Christophe.
Alors moi, c'est un livre de Frédéric Charpier qui s'appelle « L'affaire Lebovici, autopsie d'une époque ». Parce qu'en 1984, Gérard Lebovici, qui était le plus gros producteur, l'imprésario de toutes les stars, enfin à l'époque, personnage numéro un du cinéma français, a été mystérieusement assassiné. Et on n'a jamais su qui avait fait le coup. Et Frédéric Charpier, des années plus tard, qui est un journaliste d'investigation qui a ses entrées dans les archives de la police, est allé retrouver toutes les archives, est allé essayer de voir ce qu'on pouvait dire. Alors, il ne résout pas l'affaire, mais on avance sur la résolution de l'affaire. C'est-à-dire que les policiers donnent des éléments nouveaux qui permettent d'orienter l'enquête. Et ce qui est passionnant dans cette histoire, qui date depuis 1984, c'est qu'on va trouver qui a fait le coup. On y est presque, mais on n'y est pas encore.
Et ça s'intitule L'affaire Lebovici, autopsie d'une époque, hein, c'est ça.
C'est ça, Presse de la Cité.
Ou Presse de la Cité. Jean-Marc.
Moi, je recommande la reprise en salle de 4 films d'un cinéaste de Hong Kong qui s'appelle Stanley Kwan, qui est apparu dans les années 80, qui est l'âge d'or du cinéma de Hong Kong, les années 80 à 90, et un peu à rebours du cinéma de genre, du cinéma de polar, incarné par exemple par John Woo. Lui faisait un cinéma très intimiste, plus proche de celui de Wong Kar-wai. Formellement, son cinéma est moins flamboyant que celui de Wong Kar-wai, mais c'est un cinéma très fin, très subtil. Donc, il y a 4 films qui ressortent, qui sont tous très beaux. Il y en a un que je conseille particulièrement, qui s'appelle Stunter Stage, qui est l'histoire d'une actrice chinoise des années 20 qui a réellement existé, qui est incarnée par la sublimissime Maggie Cheung, et ça raconte les malheurs d'une icône qu'elle a à la fois adorée et qui va énormément souffrir dans le milieu du cinéma. C'est vraiment un mélodrame magnifique.
Donc c'est la reprise des films de Stanley Kwan. Et pour ce qui me concerne, j'ai choisi un manga. C'est une autobiographie dessinée d'un des pionniers du cinéma d'animation. Il s'appelle Rintaro et il est surtout connu en France pour avoir été le réalisateur de la série Albator. Et alors aujourd'hui, cet homme a 83 ans et il publie sa toute première BD qui s'intitule Ma vie en 24 images secondes. C'est le récit donc d'une enfance dans le Japon d'après-guerre, de la découverte d'une passion, le cinéma, grâce à son père, qui est un homme très secret, et c'est aussi et surtout l'effervescence des studios d'animation japonaises des années 60 et 70, et à quel point la ferveur de ces jeunes créateurs a participé à un élan et finalement à la relève de tout un pays. Alors Rintaro n'élude pas du tout les conditions de travail précaires, il rend hommage aussi à des grands du cinéma d'animation comme Osamu Tezuka. Donc c'est remarquablement rythmé parce que Rintaro est cinéaste et il s'attache à des détails qui racontent des enjeux plus grands. Donc l'histoire visuelle du Japon, c'est Ozu, c'est Koreeda, c'est Miyazaki et c'est aussi Tezuka et Rintaro. Je vous redonne le titre de son autobiographie dessinée, Ma vie en 25 images par seconde, et c'est co-édité par Dargo et Kana. Ariane Allard, Jean-Marc Lalanne, Christophe Bourseiller, Pierre Murat, merci d'avoir participé à la tribune aujourd'hui. Et la semaine prochaine, à la même heure et à cette même place, il sera question de l'actualité de la scène. C'est Audrey Ripouille qui réalise Le Masque et la Plume. Et aujourd'hui, c'était avec Marie Le Peintre, Tahar Bouklifa, Mathieu Tourin, Leslie Horowitz et Laurie Sanchez. Ilinka Negulesco et Florence Gimalak ont préparé l'émission avec Célestine Babinet, ma bande et moi-même. Vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.